D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Je ne sais plus qui a dit que les périodes croyant au réalisme étaient les périodes esthétiquement les plus basses. Elles sont politiquement les plus basses aussi. Du temps de Vichy, le gouvernement passait son temps à faire la propagande du réalisme. Il faut être réaliste. Cela signifiait « il faut accepter le pire ». Quand on y réfléchit, le mot de réalisme est le plus souvent convoqué pour justifier des comportements au minimum médiocres. En art, le réalisme est souvent une paresse, sinon une malveillance. Il y a chez les réalistes comme une rage de la petitesse, peut-être parce qu'ils la reconnaissent en eux. On peut mentionner tous les noms de l'histoire de l'art qu'on voudra, aucun des grands n'a été un réaliste. Pétrarque, réaliste, Shakespeare, Malherbe, Gréco, Racine, Lautréamont, Steve Reich. Je crois, sans me hasarder outrageusement, que nous sommes en pleine période de réalisme. Le figuratif le plus plat est revenu, sérieux, centré et lugubre. Il en existe une version rigolote, glace à la fraise, Jeff Koons, et le tout a une fonction rassurante. Le monde ressemble à l'idée que les puissances veulent que nous ayons. Le conservatisme est une peur. En matière d'art, toute nouveauté l'inquiète, parce qu'il craint que cette nouveauté ne l'annule. Ah, il ne connaît pas sa force, ni sa naïveté. La nouveauté advient quoi qu'il fasse, et il y résiste très bien, trop bien. La fixité et le terne sont majoritaires et tendent toujours à produire un art à leur image. Il sera toujours là, majoritaire, et voilà pourquoi il faut s'intéresser à l'autre, qui sera toujours là aussi, minoritaire et donc fragile. De temps à autre, une forme artistique nouvelle, vraiment nouvelle, apparaît. Elle est proposée par de si grands artistes dont le génie a un tel effet d'entraînement que, parfois, elle gagne. Tout le monde l'imite. Peu à peu, elle devient la banalité, c'est la preuve de son triomphe, et elle s'éteint, pour être éventuellement remplacée par une autre. Éventuellement. Depuis quelques années, un conservatisme tapageur a chassé l'abstraction. Je ne sais à quoi c'est dû, en dehors de la politique. À l'argent, peut-être, un nouvel argent qui ne s'est pas encore fait un goût. Quelle est, mettons, l'influence des milliardaires chinois qui veulent une peinture vaste, voyante et qui fasse riche comme une voiture neuve ? Qu'est-il advenu de l'abstraction ? Pour en parler, je reçois le directeur de la célèbre galerie Denise René à Paris, Denis Quillian. Denis Quillian, je voudrais, pour commencer, que nous parlions des débuts de l'abstraction parallèlement à l'histoire de votre galerie, car les deux coïncident et pas tout à fait mystérieusement. Si on accepte des éclats isolés d'abstraction comme le fameux carré noir sur fond blanc de Malevitch qui date de 1915, l'abstraction en tant que mouvement a éclos pendant la guerre en étant sans doute retardé par elle.
Je vais vous parler en parallèle effectivement de l'ouverture de la galerie et de cet enjeu formidable que quelques années plus tard Denise a mis en disant « j'ai une ligne artistique à la galerie et cette ligne artistique c'est l'abstraction géométrique ». À l'époque, ça avait l'air de rien. Enfin, maintenant, plutôt, ça a l'air de rien. Mais à l'époque, prendre une décision comme ça, dans un moment où la figuration était quand même grand majoritaire, et quelques années où le tachisme, tout d'un coup, a emporté tout, ça était toujours un combat, toujours une difficulté. Et en même temps, pour elle, ça a toujours été l'espoir, ça a toujours été l'aventure qu'il fallait mener. Et cette ligne qu'elle a toujours, toujours défendue. Comme anecdote, le nom de famille de Denise, c'est pas Denise René, c'est un nom d'emprunt. Son nom, c'est Denise Bleptreux. Or, Bleptreux, ça veut dire rester fidèle.
Alors, avant d'aller à l'ouverture proprement parlée de la galerie, il faut dire que tout ça a commencé pendant la guerre, vraiment à New York. En 1942, John Graham organise à la Macmillan Gallery la première exposition qui montrait de Kooning et Lee Krasner, qui s'appelait pas encore expressionniste abstrait. Et cette affaire d'abstraction a été, on ne le dit pas souvent, une affaire de femmes et de femmes marchandes, puisque Peggy Guggenheim a ouvert sa galerie sur la 57e rue à New York en 1942, Betty Parson aussi, et puis votre tante.
Ma mère et ma tante donc ont ouvert en 1945, juste après-guerre, ont ouvert la galerie. Pendant la guerre, cet espace a permis à pas mal de personnes de survivre. C'était un atelier qui permettait, par exemple, de fabriquer les boîtes d'emballage des chocolats de la marquise de Sévigné.
Où était-ce ?
La marquise de Sévigné, c'était sur les Champs-Élysées, presque à l'angle de la rue La Boétie. Et la galerie, enfin future galerie, le lieu où se passait tout ça était rue La Boétie, tout près des Champs-Élysées. À ce moment-là, donc, dans cet atelier, Vasarely donc, faisait des dessins pour l'atelier de la future galerie Denise René, on va dire. Et la galerie Denise René, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, vendait ses boîtes d'emballage à la marquise de Sévigné. Ça a permis de vivre pendant cette période tellement, tellement difficile.
Bien sûr. Et les origines de la famille sont quoi ? Votre grand-père était...
Juif allemand.
Non, mais je veux dire comme métier, comme...
Ah non, le grand-père, comme métier, il était à Lyon. Il s'occupait de soieries, enfin de tissus et tout, de tissus.
Et donc, ça veut dire que votre mère et votre tante étaient lyonnaises et sont venues à Paris ?
Non, elles sont nées dans la région. Ma mère est née à Fontainebleau, Denise est née à Paris. C'était des Parisiennes à fond, je veux dire, vous imaginez pas, mais quitter Paris, ça va pour un mois de vacances, mais au-delà, c'était pas possible. Hein, c'était pas possible.
Alors, est-ce que il est vrai que donc, tout ça s'organise un peu secrètement pendant la guerre, puisqu'évidemment, ça n'était d'abord pas la mode et ça n'aurait sûrement pas été accepté par Vichy ni par les troupes d'occupation, dont c'était un art dégénéré. Ou...
Complètement, oui. Mais en même temps, c'est pas non plus mûr pour cet endroit, ni pour Vasarely, ni pour Denise. Je trouve cette histoire est intéressante parce que il y a quelque chose qu'on retrouverait peut-être pas aujourd'hui, c'est-à-dire, je vous dirai un petit peu après, mais des groupes d'artistes qui vont se retrouver et qui vont travailler vraiment avec la galerie pour développer à la fois l'art, pour discuter au sein de la galerie. C'était un endroit de discussion incroyable, même de discussion des fois violentes, des artistes qui partaient des fois aussi. Hein.
Quel âge avait votre tante et Vasarely à peu près en 40, c'était des gens de 25 ans ou...
Oui.
C'est ça, ils n'avaient pas 30 ans, ils étaient très jeunes.
Ils étaient jeunes et ils découvraient. Vasarely, lui, avait fait une école qui est un petit peu le correspondant de l'école du Bauhaus à Budapest. Et il était en France depuis pas mal d'années et il faisait de la publicité. Il vivait en faisant de la publicité.
Alors, la galerie elle-même, il faut que vous m'expliquiez un peu, parce que quand on fait des recherches, je ne comprends pas bien si elle a ouvert en 44 ou en 45.
Il y a une première tentative en 44. Une toute première tentative, déjà avec Vasarely. Mais cette tentative était trop tôt, ça ne correspondait à rien par rapport justement à la guerre et à la libération de Paris. Donc la vraie ouverture, la première exposition de Vasarely, la vraie ouverture de la galerie, c'est 45.
Et c'était Vasarely seul ?
C'était Vasarely seul, c'était vraiment une exposition Vasarely.
Alors à quoi ressemblait la galerie ? Je citais tout à l'heure la galerie de Betty Parsons sur la 57e, qui était je crois la première galerie toute blanche en open space. Est-ce que la première galerie Denise René, si elle s'appelait déjà Denise René, était comme ça ?
La galerie s'est appelée Denise René dès le début, c'était un appartement. Au départ c'est un appartement qui petit à petit s'est aménagé en galerie. Donc vous imaginez, au départ, il y avait des bons radiateurs bien costauds, il y avait des fenêtres qui donnaient sur la rue La Boétie, c'était un appartement, les murs étaient blancs, hein. Par contre, il y avait des éclairages simples, et on accrochait les œuvres au mur ou les sculptures. Mais c'était un appartement qui petit à petit s'est transformé, jusqu'à une époque où on a mis des panneaux de bois sur toute la façade rue La Boétie, à l'intérieur bien sûr, pour avoir des cimaises et plus du tout cette perturbation de lumière du jour.
Alors, vous l'avez dit, votre tante et votre mère travaillaient avec elle aussi, c'est ça ?
Toute leur vie, elles ont travaillé ensemble.
À privilégier l'abstraction géométrique. Dans les années 30, il y avait eu la fameuse revue Cercle Carré qui a réuni, dit-on, jusqu'à 400 membres, mais qui n'a pas eu vraiment d'influence si considérable, non ?
Bah, écoutez, le problème de cet art-là, c'est que... Il n'a pas été, on va parler en France déjà, hein. Il n'a pas été accepté. Et je dirais qu'aujourd'hui, il est difficilement encore accepté. C'est un art qui a plus été accepté dans le temps, dans les pays nordiques, aux États-Unis à une certaine époque, bien évidemment, avec quand même une bagarre toujours avec les États-Unis qui, quand cet art a commencé à être bien reconnu, il y avait ce problème. Et quand Denise a voulu ouvrir une galerie à New York, qu'elle a ouverte,
on était... Quelle année ?
Là, vous me posez une question.
Dans les années 60, je crois.
Oui, c'est ça. Et ce moment-là, les États-Unis étaient en pleine bataille, je dirais, pour faire passer leurs artistes et n'accepter absolument pas qu'il y ait des artistes européens. Donc, Denise est allée, a ouvert une galerie et elle a été en confrontation permanente parce que elle voulait montrer l'art européen.
Mais elle avait une espèce de double querelle à tenir, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'était aussi les années 50, il y avait aussi, on a un peu oublié ça, mais une grande vague néoconservatrice avec, je sais pas quoi, Bernard Buffet et des choses comme ça, mais aussi l'école de Paris. Et il y a eu aussi l'abstraction lyrique qui est arrivée très vite. Donc elle, devait avoir un double combat à mener, c'est ça ?
Bah, au minimum double. Mais oui, bien sûr, parce que au départ, bon, c'est après la guerre, il y a quand même une formidable envie de faire beaucoup. Et elle était très liée avec les surréalistes et avec le groupe Prévert. Et du coup, au départ, Denise, elle hésite un peu sur la ligne. Vous voyez, c'est pas né comme ça tout d'un coup. Au départ, elle expose pas mal les surréalistes. Et en même temps, les surréalistes apprécient le côté de Vasarely. Ils pensent peut-être que c'est le futur surréalisme. Et du coup, il se passe quelque chose de très intéressant autour de la galerie, parce que tout ce groupe vient, parce que c'est un lieu d'exposition nouveau, et parce qu'il y a cette ambiance d'ouverture et de volonté de faire des choses après-guerre.
Et d'ailleurs, c'était quand on voit la liste des expositions qu'elle a faites au début, il y en avait 4 ou 5 ou 6 par an, c'était inouï.
Elle a toujours fait, oui, elle a toujours eu un rythme assez important d'exposition. Sa volonté, c'est il faut montrer. Il faut montrer et encore montrer. Il faut dire et redire. Il faut insister. Ça suffira jamais.
Et qu'est-ce qu'il a amené à se décider définitivement pour l'abstraction géométrique?
Bon, c'est une série d'expositions, disons qu'en 48. Et puis, alors là, il faut dire que la rencontre avec Vasarely a été quelque chose de très productif pour Vasarely. Je dirais que Vasarely n'aurait pas été Vasarely sans Denise, mais la galerie Denise René n'aurait pas été la galerie Denise René avec cette force sans l'apport de Vasarely. Je crois que ça a été deux personnes qui se sont mutuellement enrichies et qui ont mutuellement enrichi toute cette histoire.
Mais ça veut dire que, donc, vous disiez tout à l'heure que ça a rencontré des oppositions, ça a aussi marché tout de suite, d'une certaine façon, parce que s'ils ont continué, ils n'ont pas continué à perte pendant des années.
Écoutez, c'était très difficile, et là, c'est aussi, je dirais que Denise a eu des moments de chance dans sa vie, des grands moments de chance, mais elle les a toujours saisis.
Nous allons maintenant entendre Denise René rappeler ses débuts, précisément à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France refusait la modernité. Et cet extrait de Peinture fraîche du 4 avril 2001 de Jean Dève.
J'ai ouvert ma galerie. Réellement, la date d'ouverture, c'est 1945, c'est-à-dire à la libération de Paris. Je piétinais en attendant la possibilité de me lancer dans l'action. Mais donc l'inauguration, c'est 45.
Au fond, vous passiez la guerre à Saint-Germain-des-Prés.
Oui, et dans la résistance aussi, à Saint-Germain-des-Prés, au Flore. Oui, c'est vrai. C'était notre quartier général.
Les grandes rencontres se font là-bas.
Elles se sont faites en grande partie dans ce qu'était le Flore historique.
Mais déjà, en fréquentant le Flore, vous avez quand même bien une idée à l'époque de la modernité ou de l'avant-garde ou de l'art.
Oui, parce que c'était comme une sorte de foyer où se rencontraient tous les milieux culturels, les acteurs, les metteurs en scène, le théâtre, le cinéma, la littérature, évidemment le Jean-Paul Sartre et Roger Blin, Bussière, enfin tous les gens que j'ai pu rencontrer là, en les côtoyant, mais sans les connaître, à part justement Mouloudji, Blin, que nous avons bien connus. Enfin, il faut dire qu'à la Libération, qu'à cette époque-là, tout était possible, tout restait à faire, tout était ouvert devant nous. Ces 4 années de guerre, ces 4 années de manque de contact avec le reste du monde avaient fait qu'il y avait une germination que l'on ignorait et puis qui a éclaté au grand jour, à la libération. Donc, tout était possible. Toutes les aventures, toutes les ouvertures, toutes les découvertes.
Denis Quillian, on se définit aussi par ses refus, en plus de ses choix, quoique ça soit moins connu. Et si Denise René a appuyé, comme vous nous l'avez dit dans le début de l'émission, le cinétisme, elle a aussi refusé certains modernes de l'époque. On dit, est-ce vrai qu'elle a refusé que Andy Warhol fasse son portrait? Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende?
Ah, oui. Non, c'est pas du tout une légende. Andy Warhol lui avait proposé, elle l'avait rencontré comme elle a rencontré énormément d'artistes, il lui avait proposé, et après elle disait, bon, peut-être j'ai été un peu trop rude et un peu trop dans ma ligne précise, mais elle a refusé absolument.
Comme autre refus de Denis Quillian, elle a refusé d'exposer, je crois, Yves Klein et Fontana.
Oui. Et les deux, parce qu'elle trouvait que c'était pas dans cette ligne qui est une ligne de construction. Elle trouvait qu'Yves Klein, en faisant avec sa peinture bleue et des femmes qui
des
tournaient sur le tableau et tout, elle trouvait ça trop
émotif.
Oui, ça lui plaisait pas du tout. C'était pas dans sa construction. Fontana, elle était horrifiée par le côté destruction. C'est-à-dire on donne un grand coup de cutter ou de couteau
dans
à travers
toile.
La toile. Donc ça ne lui plaisait pas. Mais il y a un autre exemple.
Ah, donc elle avait un côté conservateur un peu.
Non, elle avait une ligne très, très bien définie et elle était militante de cette ligne. Je crois que c'est plutôt comme ça.
L'autre exemple, vous alliez
L'autre
dire
exemple, c'est Tinguely a exposé en 55. Elle l'a connu un petit peu avant. Elle a exposé en 55, en 56... Il me semble en 57, et après, elle a arrêté, enfin, ils ont arrêté sans se fâcher, mais ils ont arrêté, et elle a dit à Tinguely qu'elle n'aimait pas ses dernières œuvres qui étaient trop anecdotiques.
Et donc, cette ligne, il faudrait peut-être préciser que cette ligne qu'elle a défendue, qu'est-ce que c'était exactement que ce cinétisme?
Ah, alors, d'abord, elle défend l'abstraction géométrique, hein, l'art construit. Et en 55, une partie de l'art construit...
Qui était représentée par quels artistes?
Oh ben déjà, à l'époque, vous aviez Herbin. On parlait tout à l'heure il y avait Herbin, il y avait Vasarely, il y avait des artistes danois, Mortensen, Jacobsen, Bartling. Ça, c'était, il y avait De Waan à l'époque, il y avait Polyakov. Enfin, il y avait vraiment des artistes qui maintenant, on connaît bien leur nom, mais à l'époque, beaucoup moins. Et en 55, ce groupe, disons, même famille que l'art construit, mais avec une autre de tension, se réunit et les artistes, c'est Vasarely, qu'on connaît bien maintenant, Agam, Soto, mais il y avait aussi Calder, mais il y avait Tinguely, Paul Bury et j'en oublie un, qui est-ce que j'oublie? Duchamp, Marcel Duchamp.
Mais Duchamp donc, n'était pas la même génération.
Non, mais voilà, donc dans ces artistes-là, il y avait Marcel Duchamp et Calder, qui étaient, disons, les anciens, qui étaient déjà en partie, ou en tout cas connu, ouais. Sinon complètement reconnu, mais très connu. Et puis, il y avait les petits jeunes. Vasarely, Agam, Soto, tout ça, Paul Bury, tout ça, c'était les petits jeunes.
Et donc, ils définissaient leur principe comment?
Alors, c'est important parce qu'on a l'habitude de dire le cinétisme, c'est l'op art. Puisqu'aux États-Unis, quand il y a eu une grande exposition, il y avait le pop art et ils ont trouvé une bonne idée, qui n'était pas mauvaise au point de vue communication, d'appeler l'autre tendance optical art. Or, c'est finalement très réducteur parce que le cinétisme, c'est une partie d'optique,
oui.
Comme Vasarely quand il fait des tableaux noirs et de blancs qui vibrent simplement par la composition de l'œuvre, mais c'était plutôt un ensemble d'artistes qui avaient comme intention de modifier le rapport entre le visiteur et l'œuvre d'art. Donc pour vous donner des exemples, Tinguely et Marcel Duchamp utilisaient des moteurs pour que l'œuvre ne soit pas fixe. L'œuvre était en mouvement. Vasarely et Soto utilisaient aussi le déplacement devant l'œuvre. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez, l'œuvre change. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, Mortensen, Paul Bury et Agam utilisaient votre possibilité, même votre... Ils demandaient, à la limite, que vous interveniez dans leur œuvre.
De quelle façon ?
Alors, à Gamme, par exemple, vous déplaciez des pièces. C'est-à-dire, ils vous faisaient une proposition, parce que, avant tout, il y a une proposition artistique, mais vous pouviez intervenir dedans. Soit en déplaçant des pièces, comme à Gamme, ou Paul Bury, c'était des constructions où on pouvait faire tourner des plans. Donc, vous modifiez l'œuvre.
Oui, mais alors, là, d'un point de vue strictement marchand, quelle est l'œuvre ? Par exemple, si on a une œuvre d'Agam à vendre et que l'acheteur peut la modifier, quelle est la variable de l'œuvre ?
Oui, c'est pour ça que je vous disais que c'était une proposition artistique. Parce que c'est des discussions qu'on a aujourd'hui avec des jeunes artistes. Parce qu'effectivement, avec les technologies, certains pensent qu'on fait ce qu'on veut et qu'on fait n'importe quoi et que du coup, on est dans l'art. C'est complètement faux. C'est intéressant de revenir à cette base-là. Parce que qu'est-ce que c'est Agam ? Par exemple, il propose un tableau qui est avec des petites formes jaunes et blanches, tout à fait étudiées. Ce n'est pas le hasard du tout. Il vous propose une composition et vous, vous intervenez. C'est-à-dire, dans les éléments qu'il vous donne, vous pouvez faire une composition. Vous n'avez pas créé l'œuvre d'art. Vous avez un peu interprété, je dirais, l'œuvre d'art d'Agam. Mais c'est une proposition artistique dès le départ.
Donc il y a une part immuable.
Complètement. Mais l'abstraction géométrique, pour Denise et pour toute cette tendance-là, c'est la construction, c'est la réflexion de l'esprit. C'est pas du tout, je dirais, les tripes qu'on met sur la table ou les humeurs qu'on met comme ça. Ou... Non, c'est quelque chose de réfléchi, de construit et de porteur d'avenir.
Porteur d'avenir comment ?
Par cette réflexion humaine, c'est-à-dire de montrer qu'aussi dans l'art, c'est pas parce que vous utilisez les mathématiques, que vous êtes strict et tout, qu'il n'y a pas de sensibilité et qu'il n'y a pas de demain. Et demain, en ce moment, on le ressent. C'est-à-dire que cette tendance a eu une période très très dure, je dirais après les années Pompidou, qui était au contraire très faste, a une période très très dure dans les foires d'art. Le seul stand de Nice René continuait à exposer des œuvres d'art construit. Nulle part il y en avait. Aujourd'hui, cette tendance revient et du coup, vous trouvez des galeries qui exposent cette tendance alors qu'ils s'en sont jamais préoccupés. Des foires, dans tous les stands, vous avez soit un Vasarely, soit un Soto, soit un Cruz Diez. Enfin, on est dans une période montante de cette tendance.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Vasarely ? Qu'est-ce que alors, cette fin assez... terrible de...
Vasarely a une fin terrible, effectivement. Parce qu'il s'est trouvé... Alors, il était en même temps très provocateur, quand même. Vasarely avait aussi un aspect d'acheter
Dali,
un peu les gens aussi. Ouais. Enfin, acheter, entre guillemets, vous voyez, mais de se créer une cour autour de lui. Il n'en avait pas besoin, mais je pense que ça...
C'était un cabot ?
Non, c'était un grand personnage, c'était un comte. C'est pas que je suis dans ces choses de royaliste ou quoi que ce soit, mais c'était un comte. Il avait une espèce, il avait une attitude toujours très digne, très. J'ai deux artistes qui m'ont beaucoup impressionné quand j'étais petit. Il y a Vasarely par ce côté-là, toujours très très bien, très et avec un discours très important. Et de l'autre côté, Soto, qui était pour moi l'artiste jusqu'au bout des doigts. Vous voyez, Soto était musicien aussi. Alors Vasarely a eu beaucoup de succès à une époque, à tel point que il a construit deux choses. D'abord à Gordes, dans le château. Il a reconstruit le château à ses frais, enfin reconstruit, réaménagé l'ensemble du château à ses frais, fait des très belles expositions didactiques de son œuvre, montrant vraiment d'où il est parti, etc. Et en plus, comme il était généreux, toutes les entrées restaient à la mairie de Gordes. Il n'a jamais touché d'argent là-dessus. Et ensuite, s'est posé le deuxième problème quand il a voulu faire cette grande structure qui est à Aix-en-Provence, donc la Fondation Vasarely, c'est à nouveau lui qui a tout payé. Il faut savoir ça. Vasarely avait cette force aussi. C'est qu'évidemment, il a vendu beaucoup d'œuvres à une période, mais il l'a dédié, une grande partie de ce qu'il a gagné, il l'a dédié à ça. Je crois que la mairie d'Aix a dû donner le terrain, mais toute la construction, c'est lui qui l'a fait.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, donc, autour de cette fondation et autour de Vasarely, il y a eu une période où, je dirais, il était moins fort, physiquement, et puis... Bon, et ils se sont fait enfermer petit à petit, les Vasarely. Je dis « ils » parce qu'il y avait aussi sa femme à l'époque. Tant qu'elle était présente, disons, ça a été moins dur.
Et pour être, moi je peux le dire, ça veut dire que des aigres fins sont arrivés là-dessus?
Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ils ont trouvé les failles nécessaires pour manipuler.
Et donc, ça veut dire qu'à la fin, Vasarely a signé des tableaux qui n'étaient pas de lui ou a certifié des choses?
C'est compliqué à dire, vous savez, parce qu'en plus, vous imaginez dans quelle situation je peux me trouver.
Mais
Vasarely... aujourd'hui, vous trouvez des Vasarely signés, datés par Vasarely sans aucun doute. Moi, le doute que je mets, c'est que Vasarely, pour moi, était un artiste fantastique tant qu'il allait jusqu'au bout. C'est-à-dire, il créait dans sa tête les œuvres, il les contrôlait et s'il fallait, il les détruisait. À cette période-là, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de destruction.
D'accord.
Excusez-moi, j'en parle comme ça.
Mais bien sûr. Et ça veut dire que maintenant, qui est le grand expert de Vasarely? C'est vous, quand on vient demander de certifier un Vasarely?
Non, il y a maintenant un expert officiel, qui est le petit-fils de Vasarely, le fils d'Ivaral, qui était un artiste déjà fils de Vasarely. Donc, Pierre Vasarely, le petit-fils de Vasarely, a eu beaucoup d'ennuis. C'est un garçon qui est courageux parce que vous n'imaginez pas le nombre de procès qu'il a fallu faire. Mais aujourd'hui, il est reconnu comme l'ayant droit de Vasarely.
Et donc la situation est apurée, si je puis dire.
La situation s'améliore énormément. Il est président de la fondation Vasarely maintenant. Petit à petit, il trouve des fonds pour la restaurer parce qu'il faut dire qu'elle a été laissée quasiment en ruine pendant une période.
Et ça veut dire que vous, en tant que marchand, si vous avez... des Vasarely à vendre, maintenant, ça va? Ou encore des gens hésitent un peu en disant, mon Dieu?
Je crois que les gens ont assez confiance parce qu'il y a cette histoire et que ça n'a jamais été trahi. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas dans la galerie, ni aujourd'hui ni avant, un tableau qui soit, disons, pas pur et dur Vasarely des plus belles époques.
Quelle est la nécessité maintenant, puisque c'est une galerie vivante et c'est vous, Denis Quillian, qui l'a dirigée, quelle est la nécessité de l'abstraction de nos jours? Vous disiez que ça revient et qu'il y a à nouveau des imitateurs. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose dans la période d'affreux conservatisme où nous vivons et de réactions terribles? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vivace et de...
Écoutez, ça fait maintenant 3 ans que je dirige vraiment la galerie. Dans ces 3 années, ça s'est déclenché un petit peu avant, mais dans ces 3 années, a commencé à vraiment apparaître, j'exagère quand je dis que 3 ans, on va dire que ça peut être un peu plus quand même, mais a commencé à apparaître une nouvelle génération. Je ne vais pas parler d'âge, parce qu'il y en a qu'on 50 ans, il y en a qu'on 30 ans et tout. L'âge, comme d'habitude, comme la nationalité, comme tout ce qu'on veut, n'a aucune importance.
Mais dites-moi des noms, car c'est important que les gens...
Par exemple, je travaille avec un artiste qui s'appelle Elias Crespin, qui est un artiste qui fait des œuvres en mouvement. Je travaille avec un groupe belge qui s'appelle Labao, qui aussi travaille sur le mouvement et la lumière. Avec un artiste suisse qui s'appelle Pelang, qui est Peter Lang, exactement, qui est un jeune très prometteur pour moi, je pense, c'est une des...
Et qui fait de l'abstraction.
À tous. Si vous voulez, ma difficulté aujourd'hui, c'est pas tant de trouver des jeunes qui travaillent dans l'abstraction, mais c'est de trouver des jeunes qui amènent quelque chose à cette tendance. Et ils existent, mais vous n'imaginez pas ce qu'on vient me montrer à la galerie en me reprochant de pas les exposer. Des mauvais Soto, des mauvais Vasarely, avec des jeunes qui, grâce à l'informatique, bidouillent des trucs et savent même pas ce qu'il y a eu avant eux. Je veux dire, on est dans une inculture par moment qui est fantastique.
Mais néanmoins, vous avez un réservoir de jeunes artistes.
Heureusement, c'est l'avenir et c'est ce qui me fait continuer et combattre pour cette tendance. C'est que, contrairement à ce que des gens disaient, tout a été dit, c'est mort, plus rien. Non, on est en train de prouver que tout n'a pas été dit et au contraire, c'est vivant.
C'était Secret Professionnel, le 244e. La semaine prochaine, je parlerai de la soirée d'inauguration de l'ouverture du Centre Pompidou en 1977. Réalisation Nathalie Salle, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Olivier Dupré. dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.